Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 15h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. Incertitude en Afrique du Sud où la crise provoquée par les refus répétés du président Jacob Zuma de démissionner et les atermoiements de son parti, l'ANC au pouvoir, bat son plein. Situation compliquée par la décision de l'ANC de repousser à la dernière minute le conclave de la plus haute instance du parti prévu ce mercredi qui était censé sceller le sort du chef de l'État. Selon l'ANC, la réunion a été reportée au 17 février en raison de discussions fructueuses hier entre les deux principaux acteurs de la crise, le président Zuma et son possible successeur Cyril Ramaphosa. La présidente du Parlement, Baleka Mbete, a appelé aujourd'hui les Sud-Africains à la patience. « Il n'y a pas besoin de paniquer », a assuré de son côté le secrétaire général de l'ANC, S. Magashule. « Nous allons gérer ce problème avec la responsabilité qui s'impose », a-t-il ajouté. La question épineuse d'un départ anticipé du président Zuma, dont le mandat expire en 2019 et qui est empêtré dans des scandales de corruption, empoisonne l'ANC depuis l'élection en décembre de son nouveau chef, Cyril Ramaphosa, qui s'est fait le chantre de la lutte anticorruption. Politique au Burundi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, critique la volonté des autorités burundaises de réformer la Constitution nationale sans tenir compte des avis de l'opposition. Les détails avec Dili Diko.
Le gouvernement continue de chercher des amendements constitutionnels qui exacerbent les tensions avec l'opposition, a relevé Antonio Guterres dans un rapport remis aux 15 membres du Conseil de sécurité. Il a ajouté que plusieurs changements proposés à la Constitution ont été mis en cause par l'opposition, comme des tentatives du parti au pouvoir de consolider son emprise, pouvant créer des troubles. Le patron de l'ONU a estimé que même si le Burundi a un droit souverain à amender sa constitution, un processus aussi important doit être conduit d'une manière inclusive avec les acteurs de la vie politique du pays. Le Burundi est plongé depuis avril 2015 dans une crise politique résultant de la volonté du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Un référendum prévu en mai 2018 propose une révision de la constitution qui permettrait à M. Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, de convoiter à partir de 2020 deux autres mandats de 7 ans.
Agitation anglophone au Cameroun, les États-Unis ont demandé à Yaoundé de respecter les droits humains des 47 séparatistes anglophones, dont leur leader Sissoko Ayoub-Tabe, extradé du Nigeria fin janvier. Brian Newbert, un porte-parole du département d'État américain, a expliqué à Anastasie Tudiech la position de Washington sur ce dossier.
Des 47 Camerounais sont allés au Nigeria. Ils ont essayé des demandes d'asile au Nigeria. Donc, tout d'abord, les États-Unis exhortent le Cameroun et le Nigeria à s'acquitter de leurs obligations en vertu du droit international, c'est-à-dire de s'abstenir de renvoyer de force les demandeurs d'asile dans leur pays d'origine. Tout simplement, ça c'est notre demande.
Le pouvoir camerounais considère désormais Sissoko Ayoub-Tabe, chef de file du mouvement séparatiste de l'Ambazonie, et ses hommes comme des terroristes et donc qu'ils doivent répondre de leurs crimes devant la justice du Cameroun. Quelle est la position du département d'État sur cette question précisément?
Donc ça c'est une question de la loi camerounaise, donc c'est tout à fait normal qu'il y aura une procédure. Mais pour les États-Unis, ce que nous insistons, c'est que ça soit ouvert dans un état de droit.
La crise dans les zones anglophones s'est lentement muée en conflit armé, avec 22 soldats et policiers tués depuis novembre. Pensez-vous que la résolution du conflit peut être militaire?
J'imagine que non. Si nous parlons d'une solution, nous espérons que ça ne sera pas par la violence. J'aimerais adresser nos plus sincères condoléances aux familles des victimes. Comme vous avez dit, il y a plusieurs personnes qui ont été tuées dans cette violence. Les États-Unis condamnent les violences dans cette situation. Et nous imaginons que les autorités camerounaises vont chercher une solution qui n'est pas uniquement militaire, mais qui est politique, qui est dans un état de droit pour résoudre cette crise dans la région anglophone.
Comment les États-Unis réagiraient-ils en cas de procès qu'ils ne jugeraient pas équitable?
Je ne peux pas imaginer, dans une situation hypothétique, notre réaction. Mais nous espérons bien que ça va continuer dans un contexte qui est dans l'état de droit et qui est transparent pour ces 47 Camerounais et pour d'autres détenus.
un des porte-parole du département d'État américain, Brian Newbert.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Tchad, l'agitation sociale continue, le secteur public est en grève illimitée, les administrations fonctionnent au ralenti et les écoles sont fermées. Les banques, pour leur part, assurent le minimum. Côté gouvernement, les autorités ont interdit toute manifestation et lancé une sévère mise en garde aux partis politiques et associations qui voudraient passer outre. Mais malgré cette menace, plusieurs organisations de la société civile ont appelé à un jeudi de la colère demain. Politique en Guinée, appel au calme des autorités guinéennes et de la communauté internationale après les violences meurtrières qui ont fait suite aux élections locales, les premières depuis la fin des régimes autoritaires qui ont dirigé le pays pendant plus de 50 ans. À Kélinko, dans la préfecture de Dinguiraye, à 500 km de Conakry, la capitale, 5 bébés ont péri mardi dans un incendie provoqué par des manifestants. Les autorités déplorent ce drame. Précision de notre correspondant à Conakry, Zakaria Kamara.
C'est le ministre de l'administration et de la décentralisation qui fait l'annonce à la télévision nationale. Ce sont des agitateurs politiques, a-t-il précisé. Le général Bourima Kondé hésite un instant, ensuite donne le bilan des violences à Dinguiraye. L'information n'est pas facile à donner, avertit le général ministre, avant d'ajouter qu'il s'agit de manifestants qui ont mis le feu aux cases à l'aide d'essence. 5 nourrissons sont morts, c'est le bilan le plus lourd depuis le début des violences post-électorales. Des violences, il y en a eu à Kindia, à Dabola au centre du pays, mais aussi dans la capitale où des policiers ont été blessés, leurs véhicules incendiés. Notre pays n'a pas besoin de violence, regrette le ministre Bourima Kondé qui tente enfin de calmer. En matière électorale, il y a le volet contentieux. Faut-il encore attendre que les résultats soient connus, précise-t-il. Les derniers mots du ministre s'adressent aux candidats dont certains n'ont pas hésité à annoncer dans les médias la victoire de leur liste. Conakry, Zakaria Kamara, VOA Afrique.
Au Togo, les 10 étudiants interpellés mardi à Lomé restent en détention. Les intéressés tentaient de se rendre sur le campus de l'université pour une assemblée générale. Yacouba Ouedraogo.
Foli Sativi, président de la Ligue togolaise des droits des étudiants, fait partie des étudiants interpellés. Il avait été arrêté en juin 2017 et condamné à 12 mois de prison avec sursis lors de manifestations sur le campus universitaire de Lomé. Quand les étudiants avec des frondes, des lance-pierres et des bidons d'acide se préparent à s'en prendre à la police universitaire et à semer l'anarchie, nous devons agir, a déclaré Dodzi Komla Kokoroko, président de l'université de Lomé. Il a confirmé que les étudiants arrêtés ont été remis à la police judiciaire. La Ligue des droits des étudiants a appelé à des assemblées générales mardi, mercredi et jeudi sur le campus de Lomé. Les étudiants se plaignent, entre autres, de l'insuffisance du nombre de salles de cours, l'absence de laboratoires dans les départements de langue et à la faculté des sciences.
Actualité aux États-Unis maintenant, le Congrès américain va tenter d'adopter d'ici demain jeudi une cinquième mesure temporaire de financement de l'État fédéral, faute de compromis avec l'opposition démocrate pour un budget annuel. Malgré l'adoption hier soir d'une autre mesure temporaire à la Chambre des représentants, le spectre d'un shutdown, la fermeture des administrations fédérales, plane toujours sur la capitale. Abdourahmane Dia.
L'année budgétaire a commencé le 1er octobre dernier, mais les parlementaires se sont montrés incapables de s'entendre sur le montant et la ventilation des dépenses fédérales pour toute l'année. Le Congrès finance donc depuis toute l'administration fédérale, quelques semaines à la fois, au même rythme que la période précédente, sans pouvoir faire adopter les réformes de fonds voulues par l'administration Trump. En échange de l'augmentation forte du budget de la défense, la minorité démocrate exige que le reste des dépenses intérieures connaissent une hausse équivalente. Elle utilise également l'échéance pour tenter d'arracher la régularisation des centaines de milliers de jeunes sans-papiers, jusqu'à présent en vain. Les républicains peuvent passer le texte à la Chambre des représentants avec moins de difficultés, mais au Sénat, les démocrates disposent d'une minorité de blocage. Si le Congrès ne vote pas de crédit de fonctionnement d'ici jeudi minuit, l'État fédéral doit fermer et renvoyer chez eux les fonctionnaires jugés non essentiels. C'était déjà le cas pendant 3 jours en janvier. Le président Trump a déclaré qu'il préfère une fermeture du gouvernement s'il n'y a pas d'accord sur l'immigration.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.